Tu nous parles de motivation,
bonheur,
de bonheur. J'aime ça, ces sujets-là.
Ça a l'air un peu bizarre, ça a l'air un peu ésotérique, mais c'est quoi le bonheur au final? Je sais pas pourquoi je pensais à ça ce matin. J'avais plein d'idées de quoi vous parler, puis je savais pas sur quoi me camper, puis je me suis rendu compte que je demande souvent aux gens que j'aime ou que j'estime ou que j'apprécie, t'es-tu heureux?
T'as-tu posé la question, Yannick?
Je pense que je te l'ai posé une fois.
Mais tu peux me le demander. Oui, je suis très heureux.
T'es très heureux
dans la vie? Très heureux. Je fais tout ce que j'aime dans la vie. Je suis entouré des gens que j'aime, mes enfants, ma famille. Tout le monde est en santé. Fait que pour l'instant, je peux considérer que je suis heureux.
Ouais. Je trouve que c'est une question importante à se poser de temps en temps, mais pour vrai, je trouve que t'es-tu heureux, c'est différent de « Hey, ça va? » C'est à quoi tu réponds souvent? Ben oui, toi. T'sais.
Juste pour créer un malaise, il faudrait que quelqu'un dise « Non, moi, je ne suis pas pantoute. »
Y en a-tu une vidéo qui est pas...
Moi, ça va bien.
Tom, ça va bien.
C'est sûr? Faut dire que tu peux être mais tout. Je dis, est-ce que tu as posé la question, Yannick?
Il l'a pas vu passer. C'est à cause que j'étais avec toi, Yann.
Mais être heureux... En fait, quand tu poses la question, est-ce que tu es heureux, au moins, ça permet à la personne de réfléchir à qu'est-ce qui me rend heureux?
Oui, ouais. Qu'est-ce qui me rend pas heureux? Ouais. Si je me sens pas totalement au top, qu'est-ce qui cloche peut-être? Puis la notion de bonheur est tellement floue. J'ai l'impression qu'on est désespéré des fois de trouver le bonheur. Il y en a pour qui le bonheur est un choix. Il y en a pour qui c'est pas malléable, ça vient, ça part. Personne n'a la même définition au final. Puis c'est drôle parce qu'un matin, là, je lisais des affaires là-dessus. Puis t'en as-tu des tests sur Internet pour savoir si t'es heureux pour vrai? De qualifier et quantifier le bonheur, je trouve ça tellement, tellement lourd.
Je regarde souvent l'indice de bonheur du Journal de Québec. En fait, à tous les jours, je le vois passer. C'est tout le temps une personne sur deux qui est heureuse.
Ouais.
Ouais.
Ça en dit long pareil, là.
Ça en dit vraiment long.
Je sais pas si c'est positif ou négatif. C'est 50%, je trouve que c'est beaucoup.
C'est parce qu'il y en a qui en demandent beaucoup à la vie.
Oui, c'est vrai.
Puis qui travaillent très peu pour arriver à leur objectif. Mais ils en demandent beaucoup à la vie. Ils sont pas arrimés sur des valeurs profondes. Ils sont arrimés sur des fois, sur des notions d'argent et tout ça. C'est sûr,
ils n'ont pas d'objectif, ils vaguent dans la vie.
Tu peux être heureux avec un manque d'argent, mais tu peux pas être heureux quand tu es pauvre et tu n'es pas capable de te nourrir, tu n'es pas capable de nourrir tes enfants. Ouais. C'est de la difficulté constamment. Tu es dans misère. Humaine.
Hey, mais je suis pas d'accord, Yann, par exemple. Ben... Tu vas dans des endroits dans le monde où les gens sont vraiment très, très pauvres, là, qui n'ont rien d'envie. Là. J'ai eu la chance avec l'école, quand je suis au secondaire, de faire un voyage humanitaire où on s'est ramassé dans une famille qui avait rien pour être heureux. Pour vrai, là, j'arrivais pas à tout.
Mais au Québec, quelqu'un de pauvre avec des enfants, cette personne-là peut trouver son bonheur à certains endroits, mais être heureux totalement en n'étant pas capable de nourrir tes enfants, en n'ayant pas
le bonheur
travail
ultime.
Qui te convient,
on s'entend.
C'est pas un bonheur que tout le monde veut.
Mais ces gens-là ont tendance à trouver le bonheur, par exemple, dans la quétaine, dans les petites choses.
Ben, allez écouter sur Netflix le documentaire qui s'appelle « Les Blue Zones ».
Ouais.
Puis les endroits où les gens vivent le plus longtemps, c'est ceux qui souvent ont moins de ressources financières, parce que justement, ils se plaisent dans les petites choses.
J'ai vraiment une fascination pour ça. Puis comme humain, on a un impact sur le bonheur des gens aussi. Puis c'est un peu là où je veux arriver. La job de coach de vie, c'est pas sorti de nulle part, ça, là. On va s'entendre.
Il y a déjà des gens qui s'agrèchent dans leurs oreilles.
Ben oui, des gens qui décident d'aider les autres à atteindre le fameux bonheur, que ce soit à coup d'objectif, d'accompagnement. Il y a du jugement et des préjugés autour de ce métier-là. Puis je veux vous faire découvrir un peu cette job-là. C'est un peu là que j'en suis venue dans ma réflexion aujourd'hui, parce que en quête de bonheur constante, des fois, on sait pas vers où se virer. Puis t'en as du monde, ces réseaux sociaux, ou comme entreprise, qui essaient de faire leur chemin à travers ça pour aider autrui. Je veux vous présenter Charles Côté. Lui est fondateur de l'entreprise Drôlement Inspirant. Ça vous dit certainement quelque chose. Il est partout, c'est pas compliqué, là. Il y a un podcast, il est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, est actif comme créateur de contenu, mais il y a vraiment une business où il y a des consultations, des gens qui sont clients, qui font partie de son équipe. Donc, du coaching, de l'accompagnement personnel, professionnel.
Y a-t-il une formation quelconque ou c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de faire ça par lui-même?
Bien, c'est à tout ça que j'ai envie qu'on réponde, parce que la vérité, c'est qu'un coach de vie, si on prend la définition propre, là, c'est une personne qui a des forces puis qui va se créer une expertise avec ces forces-là pour aider les autres. Puis on a beaucoup de préjugés parce que non, Pascal, il n'y a pas de formation à l'école pour être coach de vie. Ça veut dire que toi, demain matin, tu décides que tu veux commencer à faire ça, tu peux utiliser tes plateformes, là, te faire une page Facebook puis devenir coach de vie par toi-même. Sans rien. C'est un peu ça, la base.
C'est ça. Puis, comme dans tous les départements, il y a tout le temps des gens qui vont s'improviser comme coach de vie, exemple, ou autre chose, mais il y en a qui sont un peu plus sérieux. Je pense à Tony Robbins, qui va souvent appuyer ses techniques avec l'aide des psychologues qui vont dire, ben voici de quelle façon on pourrait faire passer telle ou telle affaire. Tony Robbins, c'est un des plus connus aux États-Unis. J'écoute régulièrement ses capsules. Je pense pas que... à long terme, tu sais, mettons que j'ai lu le livre de Tony Robbins, je pense qu'il y en a fait deux, j'ai lu les deux. À long terme, ça n'a plus d'impact. Mais à très court terme, 2, 3 semaines, 4 semaines, tu te souviens encore des petites notions de base, je pense.
C'est vrai. Non, ouais. Je suis d'accord avec toi. Puis ces gens-là vont s'instruire pour être capables d'aider les autres. La première question que j'ai posée à Charles ce matin quand on s'est jasé, qu'est-ce qui crée la compétence d'un coach de vie? Qu'est-ce qui fait que tu peux être une ressource pour autrui? Je vous laisse entendre.
Ce qui est important, c'est de définir c'est quoi vraiment tes compétences. Et là-dedans, tu deviens un expert. Donc vraiment, tu travailles à une affaire, à deux affaires. Quel est le sujet qui fait en sorte que là-dedans, tu es la meilleure personne pour pouvoir aider quelqu'un avec des cours ou pas, mais c'est vraiment une recette qui fait en sorte que tu le sais, là. Tu le sais que cet enjeu-là, ce souci-là, ce problème-là, toi, tu es capable de le régler et non t'inventer que tu n'es pas pire dans plein d'affaires, que tu es capable d'aider du monde parce que toi, quand tu parles avec le monde, ben, tu émotives, puis le monde sont contents après, mais ensuite de ça, ils n'ont aucune stratégie. Donc, moi, c'est plus sur ce volet-là, c'est de définir vraiment c'est en quoi que tu es expert. Parce que même si on voit d'un point de vue des psychologues, c'est pas parce qu'ils ont fait le cours qu'ils peuvent aider dans la psychologie sur plein d'affaires. Des psychologues qui se spécialisent dans des choses très, très, très précises, puis ils vont pas prendre des patients qui témoignent des enjeux qu'eux sentent qu'ils ne peuvent pas régler. Fait que c'est vraiment ça qui est le plus important dans le coaching, c'est de définir ce en quoi tu es un expert.
Les coachs, pas les coachs, mais les psychologues, vous comprendrez, ils en parlent un peu, là, ils ont une crédibilité par les études qu'ils ont faites, puis par le... Tu sais, les coachs ne peuvent pas diagnostiquer, là. Vous ne verrez jamais ça, puis partez en courant, si jamais vous êtes vraiment entretenu par un coach de vie qui vous diagnostique des problèmes. Ce que les bons coachs de vie vont faire, c'est travailler de pair avec les professionnels. C'est ça que Charles m'expliquait. Lui, bon, c'est son entreprise drôlement inspirante, donc je vais prendre cet exemple-là. Ils ont des clients qui vont prendre qui ont eu un suivi psychologique dans le passé puis qui maintenant veulent passer à l'action, ou l'inverse, eux vont recevoir des clients puis vont dire, écoute, on n'a pas les compétences pour t'aider, il faut que tu ailles consulter avant de venir nous voir. Nous autres, on est là pour t'accompagner à amener à tes objectifs. Puis j'ai le goût de vous le faire entendre là-dessus aussi.
Donc, nous autres, on travaille conjointement avec ça. Il n'y a pas une espèce de guerre ou une différence. Puis il y a des gens qui vont dire, c'est mieux un psychologue, d'autres vont dire, c'est mieux un coach de vie. Non, ils font des tâches différentes. C'est juste vraiment de bien se définir. Donc, nous, par exemple, beaucoup de clients vont aller voir des psychologues ou des psychiatres avant de venir en coaching pour aller trouver c'est quoi l'enjeu, pourquoi ils se sentent comme ils se sentent, c'est quoi le problème. Après ça, ils viennent en coaching pour avoir un plan de match plus clair sur quoi faire pour pouvoir régler leur enjeu.
Fait que c'est un accompagnement à tous les niveaux, finalement. Je me demandais pourquoi exactement les gens sont attirés vers les coachs de vie. Pourquoi les gens consultent? Parce que, je sens, je ne sais pas vous autres, mais je sens qu'il y a un gros préjugé autour des coachs de vie.
Oui, mais le préjugé vient des maillons faibles. Tu sais, ceux qui ont fait, qui n'ont pas fait nécessairement de cours, qui n'ont pas nécessairement lu de livres, mais comme Charles l'explique, des gens qui s'improvisent, qui ne vont pas chercher les réponses ailleurs puis qui pensent que les réponses viennent d'eux parce qu'ils sont bons dans ci ou dans ça.
Tu veux dire les maillons faibles de coachs de vie, mettons?
Oui, exact.
Okay. Parce qu'ils n'ont pas lu ceux qui sont bons?
Ben exact. Okay. Tu sais, puis moi, un coach de vie, je ne vois pas ça comme étant essentiel à la vie, mais si tu es dans un marathon, puis tu as un gars qui est à côté de toi et qui dit, garde, je le sais que ta tête, ton corps t'a dit d'arrêter, mais ta tête est capable de continuer. Puis continue, puis à un moment donné, ça va partir. Il est à côté de toi, puis il court, il t'encourage constamment.
Bien, ça vient du principe sportif, tu sais.
Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé qu'un psychologue, quand tu avais une petite problématique, mais en parlant avec Bruni Surin, il m'a dit, non, Yann, moi, un psychologue sportif m'a aidé à progresser parce que quand j'arrivais à l'hôtel, je regardais tous les noms qui étaient devant moi, puis je disais, OK, lui, il est dopé. Fait que je vais arriver comme cinquième. Mm-hmm. Puis le psychologue sportif a dit non, on va changer ta façon de voir les choses.
Tu défais les connexions.
Tu vas arriver à l'hôtel, tu vas prendre soin de toi, tu vas t'entraîner du mieux que tu peux, tu vas manger tout ce que tu dois manger pour avoir un corps qui est performant avec le bon nombre de protéines, le bon nombre de calories, tout ça. Puis quand tu vas arriver sur la ligne, tu regardes personne à côté de toi, puis l'ennemi à battre, c'est toi-même. Mm.
Tu gardes le focus.
Mais tu sais, moi, là, je pensais que c'est parce que quand tu étais un sportif, tu pouvais hésiter dans ta tête. Des fois, ça filait pas. Mais non, c'est pas ça pantoute.
C'est en amont.
Il te montre une façon de faire qui va faire en sorte que tu vas faire abstraction de tout ce qui est autour, puis tu vas te concentrer sur tes affaires à toi. Bien, ça, un psychologue sportif l'a amené avec Bruni Surin.
Oui, au lieu de dépenser ton énergie ailleurs, tu la dépenses sur toi.
Puis c'est même au-delà. Là, on parle du sport parce que c'est l'exemple le plus fréquent puis le plus facile, mais c'est le principe aussi que tu peux utiliser dans le day-to-day. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être une crêpe, tu comprends, complètement morte là, pour demander de l'aide, là, pour essayer d'aller chercher des ressources.
Complètement morte, non, attendez
c'est,
pas.
C'est le principe de dire, tu peux peut-être aller chercher des trucs pour travailler sur toi-même avant
ça arrive. Puis en fait, c'est la plus belle des choses.
Bien, totalement. Fait que je vous laisse l'entendre sur le pourquoi les gens décident de consulter un coach de vie.
les gens viennent nous voir souvent parce qu'ils sont en quête de sens. T'sais, l'humain est en quête de sens. Les gens veulent être plus heureux, puis c'est un terme un peu cliché, là, d'essayer de trouver le bonheur là, ultime là, dans chaque jour de notre vie sans absolument rien faire pour. Là. Mais les gens sont en quête de sens, les gens veulent plus de clarté. Ils veulent régler c'est quoi leur problème, mais ils ne savent pas par où commencer. Les gens ne savent pas quoi viser. Fait que quand tu as un bon coach avec toi, puis qui a de marcher le chemin avec toi, qui t'accompagne, qui règle certaines affaires, certains éléments que te freinent d'être en ce moment, il règle peut-être certains. T'aides à cheminer dans certaines blessures que tu as vécues, bien à ce moment-là, c'est là qu'on voit un progrès. Donc, les gens viennent pour des différentes raisons. Il y en a que c'est parce qu'ils veulent plus dans leur carrière, il y en a que c'est parce qu'ils veulent plus dans leur relation. Mais souvent, c'est toujours acheminer vers je veux pas être dans le manque, je veux aller vers plus de quelque chose, où je sens dans ma vie, il manque telle chose, fait que je veux vraiment l'améliorer. Donc, les gens, ils vont vers tellement de sujets larges. C'est pour ça que nous, on rencontre les gens avant de les prendre en coaching pour être certain d'avoir les bonnes compétences pour les aider. Puis nous, ben, vu qu'on est une équipe de coachs, ben, on peut aider sur plein de sujets différents parce que justement, ben, les gens que j'embauche, ben, vont pouvoir traiter des choses que moi, par exemple, c'est moins ma force, par exemple. Donc, on se sépare les forces là-dedans.
C'est vraiment surprenant à quel point il y a des gens qui consultent. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Moi, je pensais que les coachs de vie, c'était juste vraiment présent sur les internets, que tu voyais ça passer sur les réseaux sociaux, que tu pouvais t'en inspirer, mais je pensais pas vraiment qu'il y a des gens qui pouvaient consulter littéralement au day-to-day. Fait que ma vision a beaucoup changé.
Puis il y a un buffet là-dedans. Là, mais moi, oui. J'écoute pas nécessairement un coach de vie. J'écoute des petites capsules de motivation aussi ou ça quand je vais m'entraîner, tout ça. Puis ça me fait du bien, là. À long terme, ça n'a aucun impact sur ma vie. Mais à court terme, quand j'ai un discours de motivation, je m'en vais au gym, exemple, motivation pour ce qui est de l'entraînement, ben ça a un impact parce qu'après ça, je mets ma musique préférée puis je repense à ce que la personne a dit dans sa capsule de motivation. Puis OK, all right, puis si je m'en souviens plus, je le remets. Puis pendant que je suis en train de m'entraîner, ça m'aide un peu plus.
Ben oui, mais on ne peut pas être contre la vertu.
Pour moi, c'est comme un buffet. Là. Je ne suis pas quelqu'un comme si c'était un gourou. Ouais. Anthony Robbins est excellent. C'est un de ceux que j'écoute le plus en podcast.
C'est lui dans le financier, ça?
Ah, il est dans le financier aussi, une fois de temps en temps.
Oui, parce que tu en as pour tout. Tu en as pour le sport, le financier, tu en as pour les relations personnelles, professionnelles. Tu en as vraiment pour tout.
Mais Tony Robbins, qui est bon pour toi, finalement.
Oui, Tony Robbins, il est dans plusieurs... Tu sais, ben, ça peut être une question de bonheur aussi, mais moi, c'est beaucoup dans les finances. Il m'a beaucoup aidé avec son livre. Là. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis ça m'a fait progresser. Mais ça a fonctionné pour moi. Ça se peut que pour Tom, ça ne fonctionnera jamais.
Ouais, c'est ça. Ça dépend quel type de personne tu es. J'ai demandé à Charles si le moteur de sa job, c'était les gens malheureux. Ça a l'air étrange comme question, mais je pense qu'il y a un mythe derrière ça. Tu sais, du genre, ce monde-là, son crosseur, ils prennent les gens qui vont pas bien dans la vie puis ils en profitent pour faire de l'argent, tu sais, en disant qu'ils vont tout régler. Non, mais c'est ça pareil, le plus gros préjugé qu'il y a sur les réseaux sociaux. Fait que je lui ai demandé, est-ce que le moteur de ta job...
Non, pas du tout, parce que...
Excuse-moi.
Non, pas du tout, parce que...
Bon, il te dit non, c'est correct.
Il dit non. Non, c'est ça, l'enfant. C'est
un bon extrait.
C'est pas ça. Vas-y, on l'écoute.
Non, pas du tout, parce que les gens juste malheureux qui veulent rien changer, ben, on pourra pas les aider. Qu'on ne peut pas le faire à leur place de travail. Donc, quelqu'un qui vit présentement une situation de vie où il se sent malheureux, c'est différent que juste les gens malheureux en général. Puis, on est des gens qui vont déjà très bien. Tu sais, le coaching, là, c'est pas juste en lien avec tu te sens pas bien, puis après ça, tu vas mieux te sentir. Moi, je suis quelqu'un qui se sent bien, je suis quelqu'un qui est heureux. J'en ai quand même des coachs pour différentes sphères de vie, parce que je vais aller travailler des choses en précision juste pour aller encore mieux. Fait que la personne qui dit, bah, oui, ma vie va relativement bien. Mais dans mon couple, oh, je pourrais travailler une telle affaire qui me rapprocherait de mon conjoint, ma conjointe. Ben good, il y a des choses qu'on va pouvoir travailler qui vont pouvoir aider là-dedans. Donc, c'est pas nécessairement juste de viser ceux qui sont malheureux, parce que sinon, pour nous, ça serait lourd comme tâche.
Un peu, oui.
Mais quand même. Fait que c'est juste bénéfique. En tout cas, moi, je n'y vois que du beau. C'est à vous de voir si vous embarquez dans la parade ou pas.
T'embarques-tu là-dedans, toi, Audrey Pinchot?
Ben écoute, sincèrement, j'ai jamais pensé à aller consulter vraiment un coach de vie. Moi, de façon très, très transparente et honnête, j'ai une travailleuse sociale que je vois aux deux semaines pour jaser de la vie. Des fois, j'ai des affaires plus sérieuses à raconter parce que je me rends compte de certains comportements. Puis là, je me dis, hey, crime, j'ai peut-être le goût de travailler un peu là-dessus. Ouais. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur.
Mais tu sais, c'est quelqu'un qui c'est son travail professionnel. Même affaire pour ce qui est du psychologue, puis même affaire pour ce qui est des coachs de vie qui sont sérieux. C'est des gens qui sont très professionnels puis qui essaient de s'outiller pour pouvoir vous aider.
Oui,
mais
puis
faut s'entourer
que
des bonnes personnes.
T'as raison, Yann. Puis je trouve que dans un monde où en ce moment, on arrache à voir un travailleur social ou une psychologue ou peu importe parce qu'on manque de ressources dans le système de santé, je trouve qu'il y a des belles alternatives comme ça qui peuvent aider si finalement votre problème il n'est pas si gros puis vous avez juste besoin d'un accompagnement. Fait que je trouvais ça sympathique. On parlait de bonheur qui était la source source de tout ça dans la réflexion. On va terminer avec ça. Charles avait sa perception sur ça, comment faire pour être heureux.
Le sujet principal qui est le bonheur, moi, ce que je remarque, c'est que on travaille à l'envers si on cherche à être heureux. Moi, ce que je recherche, c'est plus le sens. Parce que dans le bonheur, là, il peut y avoir des vices et de l'évitement. Des vices du genre, ben, un de tes objectifs de vie, c'est d'être en santé et avoir une belle apparence physique. Mais là, parce que, oh, aujourd'hui, ça va me faire du bien de manger quelque chose qui n'est pas bon pour moi, mais je tombe dans ce vice-là et je mets ça sur le dos du bonheur. Ou je fais de l'évitement parce que j'ai une situation potentiellement conflictuelle puis je l'évite parce que ça va me rendre plus heureux de ne pas être dans un conflit plutôt que régler ça. Fait que moi, je veux aller plus vers du sens. Mais il y a une conséquence à aller vers le sens, puisque il n'y a pas de bonheur instantané, puis il y a des sacrifices à faire. Puis l'humain ne veut pas faire de sacrifices. L'humain veut être heureux là, maintenant, sans absolument rien faire. Et ce que j'ai remarqué auprès de mes clients, puis tous les gens que je coach, j'accompagne, les gens qui me suivent sur les médias sociaux, c'est ce qui nous rend vraiment heureux, c'est la fierté de bâtir quelque chose. Fait que j'encourage tout le monde dans leur vie à bâtir quelque chose, que ce soit leur famille, leur carrière, leur physique, peu importe qu'ils ont envie de bâtir, quand tu bâtis quelque chose, c'est là que tu as de la fierté, c'est là que le bonheur peut apparaître.
Okay. Whatever works.
C'est ça. Ben, écoute, c'est une belle réflexion, mais tu vas tout le temps rencontrer des chums de gars ou des chums de filles qui rencontrent tout le temps le même genre de personnes comme conjoints, tu sais. Puis tu essaies de les aider, puis ces gens-là ne sont pas capables d'assimiler ce que tu es en train de leur expliquer, c'est-à-dire, regarde, ton ex-ex que tu disais que c'était une crise de folle, ton ex-ex que tu disais que c'était une crise de folle aussi, puis ton ex de là que tu dis que c'est une crise de folle, ça se peut-tu
que, actuelle.
Ça se peut-tu que ça soit, à un moment donné, ça soit toi le problème?
Il y a un pattern. Ben, tu peux pas aider quelqu'un
si
que tu veux pas
s'aider. Si tu dis ça à ton chum, parce que t'es proche de lui, il ne t'écoutera pas.
C'est vrai, t'as raison.
Mais si quelqu'un...
Mais c'est de l'amour pourtant.
C'est de l'amour.
C'est tellement de l'amour de ton meilleur chum, tes meilleurs chums qui te challenge.
Mais si quelqu'un de l'extérieur, à qui tu peux jaser, toi tu parles avec une travailleuse sociale, mais elle, là, elle va te dire quelque chose, puis comme t'as pas une proximité, c'est pas ta meilleure amie, tu vas prendre ça pour acquis, tu vas dire, crif, ça a du bon sens. J'ai tout le temps le même pattern mes jobs ou mes conjoints ou mes ci, mes ça.
Oui, parce que c'est une vision de loin que ce professionnel ou cette professionnelle-là.
Tu te victimises, mais tu ne fais pas d'introspection. Puis ça prend quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas à tous les jours avec toi pour te convaincre que peut-être qu'il y a quelque chose à aller analyser.
C'est
là.
Ça. Mais ton chum, il t'écoute tout le temps. Là. Tu sais, ça fait toutes les cinq dernières blondes, c'est toutes des crises d'affaires. Ça se peut-tu que ça soit toi le problème à quelque part?
Oui, puis je réitère, pour moi, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas céder.
Je sais pas pourquoi tu ris, parce que j'ai sûr atteint
la
trappe encore.
C'est ça.
je trouve ça excellent.
Je veux pas ouvrir la porte, mais là, tu donnes le goût de l'ouvrir. Là.
Vas-y.
Je sais pas où me placer. Là.
Tu disais... T'allais où? Il ouvre la porte, si tu dis...
non, mais ce sera mon mot de la fin.
Non, mais c'est la proximité. Tu comprends? T'as beau demander à tes amis de filles ou à tes amis de gars, « Hey, c'est quoi mon problème par rapport à mon travail? C'est quoi mon problème? » Tu les écouteras jamais. Mm. Parce que c'est un biais. Puis c'est quoi? Nos enfants ont ce même biais de proximité-là. T'es un père. T'as passé par toutes les étapes que tes enfants ont passées. Mm. Tu vas leur dire, « Garde, Joshua, tu me demandes comment faire pour qu'on t'ait un but. » Je te dis, t'as deux choix. Soit d'aller la chercher dans le coin, ou quand c'est tes amis qui vont dans le coin, toi, tu t'en vas te placer devant le filet. Ils te regardent comme si tu étais un extraterrestre, puis comme si tu connaissais absolument
rien. Mais le coach va lui dire, puis ça passe.
Mais quand le coach va lui dire, il va le faire, puis il va dire, « Papa, je suis tellement fier, j'ai compté un but. » Le coach me dit de me présenter devant le filet, de mettre mon bâton à terre, mes deux mains, puis d'attendre la rondelle parce que mon ami est allé chercher dans le coin. C'est juste l'effet de proximité.
Mais c'est bon.
De quelqu'un de l'extérieur qui est neutre, qui n'en a rien à battre de ton amitié, mais qui est payé pour te dire la vérité, ça fait mal en sacrifice,
mais
au moins tu as la vérité.
Il faut que tu sois vert. Puis, tu sais, on parlait avec un collègue ce que tu viens de dire par rapport à ton fils. Là. À un moment donné, on avait cette conversation-là hors d'onde avec un autre collègue. Puis, ce collègue-là s'est rendu compte qu'il y avait un intervenant dans la vie de son fils qui était hautement estimé et écouté par son fils. Alors, il a décidé d'avoir une conversation avec cet intervenant-là. Puis, il a dit à la maison, j'ai telle difficulté à aider, à passer un message. Et ça a passé par la courroie de transmission qui est l'intervenant. Puis, le fils a dit, il est tellement hot, il a tellement raison. Mais ça venait du papa.
Ouais.
Puis il a fait... Tu sais, t'es pas une histoire d'ego, d'orgueil là-dedans. Tu veux juste aimer le plus possible
les gens
autour
de toi. Mais c'est la
beauté de la vie. Mais il y a des gens qui nous écrivent, mettons, moi, j'ai perdu mon meilleur ami comme ça. Il m'a demandé mon avis sur ses relations. Il l'a pas accepté. Quelqu'un d'autre qui nous dit, j'ai confronté une fois mon meilleur chum de gars dans un endroit neutre sur ses attitudes. Et il m'a pas parlé pendant 2 semaines. Je n'ai jamais plus réabordé le sujet parce que je pensais que j'allais perdre mon ami. Quelqu'un d'autre qui dit...
Mais c'est raide en sacrifice, oui. Le Pascal. Quelqu'un qui te regarde dans les yeux puis ils t'écoutent te plaindre depuis 3 ans de toutes tes dernières blondes, puis ils disent « Hey, Yann, c'est toi le problème. » Même si tu dis que c'est toutes des folles, là, c'est tout le temps les mêmes problèmes récurrents. Fait que c'est soit que tu choisis pas la bonne personne, ou soit que...
Il y a certaines choses chez toi
ou soit que peut-être que tu perçois des affaires qui n'existent pas par rapport à tes ex-conjointes, là. C'est la même affaire pour les filles en passant. Les filles vont dire hey, « Pourquoi je tombe tout le temps sur des maudits machos? » Ben, peut-être parce que c'est ça qui t'attire, fille.
Ben, bref, t'as raison. C'est souvent des gens de l'extérieur qui vont aider. Puis je pense que ça revient un peu au point de départ. Ça peut valoir la peine, des fois, de sortir de son cercle puis d'aller demander peut-être une aide supplémentaire. Moi, je le vois comme ça. C'est ce que j'applique, du moins que j'essaie d'appliquer de façon très, très humble. Je veux dire, il y a personne de parfait. Puis je trouve que, moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, cette aide-là, cette personne-là qui me tient la main quand il y a quelque chose, ben ça m'amène à évoluer constamment. Fait que je pense que ça peut valoir la peine, des fois, d'essayer de trouver peut-être des solutions ailleurs, vu le fait que le psychologue n'est pas dans la rue en train d'attendre des clients. Là, ils sont pas mal tout occupés.
Oui.
Ouais, toi, tu es dans la rue en train d'attendre ton psychologue. Mais vous êtes de riches personnes, les gens qui sont capables de faire des introspections, même si c'est difficile.
Puis ça fait mal.
De confronter les démons, de confronter pourquoi tu agis d'une manière, d'être capable de s'excuser, de voir où est-ce que tu as dépassé les bornes, puis aussi d'être capable de ne pas se victimiser dans tous les contextes. Là. La victimisation, je veux dire, regarde-toi avant de regarder les autres et ce qu'ils t'ont fait.
Puis pour le conjoint, la conjointe aussi, tu sais, qui se rend compte que son conjoint est en train de consulter, mettons, un travailleur social ou encore un coach de vie par rapport à sa relation amoureuse et tout ça. Hey, toi, il faut t'endurer ça. Parce que toi, tu te fais analyser selon ce que ta conjointe ou ton conjoint dit à l'autre personne. Fait que tu comprends, on est toujours les héros de notre histoire.
C'est vrai.
Sauf que...
Donc, la personne va dire, ben il me fait souvent ci, il fait souvent ça, il fait souvent ci. Fait que là, l'autre qui est en face doit avoir... Puis c'est pour ça que ça prend des gens professionnels.
Oui, c'est ça.
Qui vont être capables de dire, t'as peu, là, toi, ce que tu me montres, c'est ta vision des choses. Comment lui pourrait voir ça selon toi?
Ouais.
C'est pas tout le monde qui fait ce step-là supplémentaire parce qu'on a plusieurs réalités.
Ça, c'est confrontable. Parce qu'il y a des faits, puis il y a des perceptions, puis il y a des émotions. Puis tout ça... Fait en sorte qu'on analyse et on vit les choses différemment.
Est-ce
que
tu as de l'empathie?
Je suis capable d'avoir de l'empathie et de la compassion pour l'autre personne qui était supposée aimer aussi.
Oui, puis c'est pour ça que l'accompagnement peut devenir une option parce qu'on n'a pas toute cette... J'allais dire cette maturité-là émotionnelle. C'est même pas le bon terme, mais ça veut pas dire que tu l'es pas si t'es pas capable.
Ouais.
Mais des fois, on n'est pas capable d'avancer tout seul. Fait que
c'est ça.
Je trouvais ça intéressant.
Oui, exact. OK. Ah, ça fait du bien de jaser. Je te l'avais dit que c'est le fun, des petits sujets comme ça.
Ben, c'est vrai que c'est le fun.
Faut pas que ça soit trop sérieux, là.
Non, mais on essaye. Mais des fois, en même temps, tu veux pas parler de...
La pluie pour le beau temps.
Ben, c'est ça tout le temps, là, tu sais. Faut que t'essayes dans l'ailleurs.
Faut que les gens embarquent, puis là, ben, les gens embarquent.
Mais t'en as déjà eu des chums de gars ou des chums de filles qui t'ont raconté des histoires par rapport à leur ex, puis toi, ça fait 10 ans que t'es connais, ça fait 3 chums ou 3 blondes qu'ils ont, c'est tout le temps les mêmes problèmes.
Ouais.
Tout le temps les mêmes affaires. Ces gens-là restent dans leur merde, là.
Ouais. Je suis pas une bonne amie à ce moment-là parce que j'ai peut-être que je manque de tact, mais moi c'est des choses qui doivent se dire dans ma tête. Puis si ça vaut le prix de notre amitié, ben peut-être que notre amitié n'était pas si solide que ça.
C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que je connecte aussi bien avec toi parce qu'hier on est intervenu toi puis moi, ok, dans une histoire.
Oui.
Puis c'est rare que j'entende des gens qui sont pas gênés de donner leur opinion par rapport à des choses qui les concernent pas nécessairement, mais tu le dis. Je vais le dire juste pour son bien, même si ça peut me revenir d'en face.
Oui, il y a une façon de dire les choses
puis
aussi.
Hier, je suis un petit peu plus rustre, mais hier, on est intervenus les deux, puis je me suis dit, crif, que c'est rare que j'ai la chance de rencontrer quelqu'un de main.
Oh.
Normalement, là, les gens, ils mettent tout le temps des petits gants blancs pour pas... Mais toi, tu savais qu'il fallait que tu interviennes, puis je pense que ça a fait du bien à l'autre personne.
Je pense que la tierce personne a entamé une réflexion.
Es-tu au bureau un matin?
Ah, je sais pas.
Alors, j'y ai fait à croire qu'il fallait qu'il se rende au palais des congrès, là, à côté de l'Assemblée nationale.
Pour la manifestation?
Non, non, mais pour le budget.
Oui.
Ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de nouvelles de lui avant 4 heures, je pense.
OK, okay.
16 heures. Il est séquestré.
Mm.
Sauf qu'il savait pas que c'en allait là.
Ah, intéressant.
Midi 10, on fait une courte pause et on vient. Merci, Audrey Pinchot.
Salut.
Marceau, le midi.